Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a vu les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan, c'est comme ça qu'on dit je crois. Donc Nuri Bilge Ceylan, il a eu la Palme d'Or pour Winter Sleep notamment en 2014 il me semble. Et alors c'est pas un film qu'on aimait énormément, moi je trouve que c'était un film assez lourd, assez pesant. Mais il avait réalisé entre temps, enfin depuis, il a réalisé Le Poirail Sauvage qui était à Cannes aussi il y a 5 ans il me semble. Et que moi au contraire j'avais beaucoup aimé, et que, il me semble que c'est un avis que tu partages aussi Josué. C'était un film qui voilà, ouvrait un petit peu sa mise en scène quoi, il y avait beaucoup de respiration dans ce film, beaucoup de décrochage qui est très intéressant. Et donc là, Les Herbes Sèches, qui est aussi un film très ample, très a priori, voilà, toujours dans la lignée aussi de ce qu'a fait Ceylan jusqu'à présent. C'est un film qui dure 3h15 et qui raconte, alors on va essayer de résumer ce qu'on vient de voir. Donc c'est un professeur d'art plastique dans un collège, dans une région reculée de Turquie qui est sous la neige la moitié du film, même les trois quarts du film en fait. Et il est accusé voilà, d'avoir une promiscuité trop importante avec certains élèves, on est à la limite voilà, du malaise, et il est rappelé à l'ordre par sa direction, et en parallèle il va faire la rencontre d'une professeure qui est arrivée dans la région, qui est un petit peu seule, et qui va essayer de rencarder un petit peu avec son ami, donc ils vont se voir tous les trois, et donc voilà, on va avoir ces deux un petit peu... trames scénaristiques qui vont s'entrecroiser au fur et à mesure du film. Josué, qu'est-ce que tu as pensé donc, des Herbes Sèches qui peut-être dans le prolongement du Poirail Sauvage?
Alors oui et non, c'est vraiment intriguant parce que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire j'aimais pas Winter Sleep, j'étais un peu partagé sur les précédents films de Ceylan et j'étais allé voir Le Poirail Sauvage un peu reculant, je dois dire que j'avais été complètement cueilli et que le film avait vraiment infusé quelque chose qui m'avait impressionné, très ému. Et là, je sais pas ce qui s'est passé en fait depuis Winter Sleep, mais je trouve que sa mise en scène a acquis une souplesse, une élasticité un peu nouvelle. Et alors qu'en même temps, c'est toujours quelque part le même système, la même rigueur, un goût pour les plans séquences, pour les situations très dialoguées, très étirées.
Très écrit, hein, on l'a pas précisé, mais oui, ça fait partie comme ça de son style.
Bien sûr, et c'est vrai que pendant à peu près la première heure, on pourrait même se poser, alors moi je la trouve déjà très précise, mais on pourrait se demander si on n'est pas un peu devant un produit type cannois, très formaté, de non-dit, sur un personnage qui serait potentiellement...
un personnage antipathique.
Plus qu'antipathique, possible, mais même ouais. Potentiellement un personnage qui serait pédophile. Hein, non seulement le scénario, mais la mise en scène sème le doute, dont les motivations seraient très ambiguës, très ambivalentes, puisque au début, donc, il rencontre seul ce personnage féminin qui ne semble pas spécialement l'inspirer, la scène est ellipsée, enfin, on a l'impression que c'est en tout cas pas une rencontre du tout déterminante, et il décide de la présenter à un de ses collègues qui est aussi son colocataire, et en fait c'est à partir du moment où il devine, il croit ressentir une tension érotique entre les deux, que tout d'un coup il change un peu d'avis. Et il y aurait la même chose avec ce personnage de jeune étudiante avec qui il se révèle d'emblée très proche et qui écrit une lettre d'amour et il a l'air visiblement assez persuadé d'être l'objet de cette affection. Et il y a un bref plan qui laisse suggérer en fait que peut-être non, que peut-être lui-même aurait un peu tricoté cette fable d'une romance platonique entre une étudiante et son professeur. Et sur ça, il y a des choses d'emblée, il y a vraiment une précision de mise en scène, mais qui se font dans un récit extrêmement minutieux, extrêmement bien mené. Par exemple, la première scène qui réunit ce personnage de professeur avec son étudiante, il est en train de marcher dans un couloir, et en fait, l'étudiante se surgit dans le cadre, littéralement, en essayant de lui faire peur, et lui, il n'est pas surpris, mais...
Puis il y a des gestes qui...
Tout à fait, il est tout à fait... Et en même temps, il est déstabilisé. Donc c'est un professeur d'art plastique, hein, notamment, il fait un cours un peu sommaire sur la perspective. Et c'est cette question de... être ou pas dans le cadre, et qu'est-ce que je cadre, et fondamentalement, quelle est ma place au monde et qui je suis, parce que c'est un peu les grandes questions métaphysiques que le film poserait. C'est quelque chose qui est pris en charge par la mise en scène, dans une scène que je trouve très drôle, et je pense qu'il faut le dire, le film a vraiment mais des scènes que je trouve très comiques. Une scène justement de triangle amoureux, de rencontre à trois, où le personnage se fait littéralement expulser du cadre, du moins du point de vue du personnage féminin, qui décide de photographier l'autre personnage masculin en trouvant son visage très beau, très intrigant, et lui est complètement expulsé quelque part.
D'autant plus
scène.
Parlant que on n'a pas précisé, mais sur son temps libre, il a une pratique un peu de photographie aussi, donc il photographie des personnes qui habitent dans la région. Quoi.
Tout à fait, qui s'intercale dans le film. Et plus évidemment, la question plus largement du cadre, c'est le cadre du village, c'est le cadre de l'institution scolaire.
Qu'il veut quitter d'ailleurs. Hein. Il a qu'une envie, c'est d'aller à Istanbul pour avoir une meilleure condition de vie. Enfin voilà, pour quitter son
village.
C'est
un personnage
village,
qui a des motivations contradictoires. Voilà, on ne sait pas exactement s'il veut être là ou pas là, s'il est quelque part presque plus déçu. D'être accusé d'une promiscuité un peu ambivalente ou de simplement de ne pas avoir été peut-être l'élu de ce coup de foudre de l'essence.
À un moment même où il y a une confession un petit peu sur le fond des accusations, il est presque déçu que c'est pas lui le centre un petit peu de l'accusation. Au moment où on dit que c'est son colocataire qui à la base était la cible principale, et puis après il essaie toujours comme ça de ramener les choses vers lui. Enfin, voilà, il y a un jeu comme ça.
On pourrait dire en fait que c'est un peu le portrait paradoxal d'un personnage un peu égocentrique qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, quels sont son désir, quelles sont sa place dans le monde. Mais bon, tout ça sert avant tout une mise en scène que je trouve, notamment dans son rapport à la durée, je le précisais au début de cette émission, a vraiment gagné en élasticité avec une séquence qui me semble être un peu l'acmé évidente du film, qui est une scène de dîner.
2 heures, il me semble. Voilà,
une scène de dîner avec une conversation politique, métaphysique très longue, et qui va ensuite connaître un certain nombre de pas de côté, de décadrage, enfin cadré, ça me semble être un peu le cœur de la dynamique du film. Et là, je trouve vraiment, alors à la fois en termes de tonalité, de comique, de régime de mise en scène, je trouve vraiment que la mise en scène de Celan a gagné une épaisseur, alors non pas par sa rigueur, parce qu'elle a toujours été rigoureuse, et même parfois à un moment, tu l'as dit sur Winterslip, un peu écrasante, un peu solennelle, mais au contraire, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus altier même par moment, ce qui fait même que le sens du film, de ce qu'il essaye fondamentalement de raconter, nous échappe par endroits, mais en revanche, le film est tout le temps surprenant formellement. Et moi même d'un point de vue purement rythmique, de manière dont les scènes résonnent, dont il articule des tonalités très différentes, je trouve le film, mais par endroits, très réjouissant, hein, au premier degré du terme.
C'était déjà moi ce qui m'avait beaucoup séduit avec Le Paris Sauvage, j'étais très surpris de voir ça, c'est-à-dire que le film avait un cadre assez imposant aussi, avec des thématiques très, très difficiles, et puis on avait comme ça toujours des décrochages qui étaient autorisés par, qui arrivaient un petit peu de nulle part, hein. À un moment il rencontrait, le personnage du Paris Sauvage rencontrait une ancienne amante, une ancienne camarade de classe, et il s'embrassait à côté d'un arbre, il me semble, c'était peut-être le poirier, j'en sais rien.
Oui, c'est le poirier.
Et la caméra, comme ça, d'un coup, en fait, se mettait à flotter au-dessus. C'était la première fois qu'il y avait une contre-plongée, quoi, dans le film. Donc il y a comme ça des décalages qui sont un peu imprévisibles et qui font tout le sel un petit peu de ce qui peut. Ça joue par contraste, en fait, presque avec la base très solide de la mise en scène qui, d'un coup, comme ça, devient plus légère. Et tu as parlé de cette scène de dialogue. On va pas en dévoiler beaucoup plus. Mais moi, j'ai jamais vu, par exemple, une salle réagir comme ça à un simple changement d'axe dans le cadre.
Et il y en a plusieurs qui sont étonnants. Oui, je crois que c'est vraiment devenu un espèce de génie de la dynamique de la situation. Ça, c'est vraiment, il y a des blocs de situation qui va triturer et il nous emmène dans précisément un endroit auquel on n'attendait pas du tout. Il y a une manière de déplier les séquences qui est assez impressionnante, et même que le film pourrait presque organiser de manière quelque part programmatique au tout début et en même temps de manière assez discrète. C'est-à-dire que l'une des premières scènes, ce sont des professeurs qui rentrent un à un dans la salle des profs, et puis ils discutent, ils échangent de place, ils commencent à picorer dans un espèce de petit déjeuner collectif. Et en fait, c'est un plan séquence, c'est en fait une scène d'une chorégraphie qui est très impressionnante, mais qui semble une scène d'une banalité, d'une trivialité, avec cette idée que tout est cadré, tout est extrêmement bien chorégraphié, et puis juste après arrive le surgissement de ce personnage de l'adolescente qui dérègle quelque part les choses.
Sachant que dans ce petit repas, en fait, les professeurs arrivent un à un, donc il y a déjà cette idée comme
et
ça.
On voit déjà des dynamiques, cadre, des espèces d'interrelations qui se dessinent. Donc il y a quelque chose de vraiment très précis qui justifie en tout cas pleinement la durée. Hein. C'est-à-dire, il y a pas mal de films longs à Cannes cette année.
Oui, c'est ça.
Celui-là, pour le coup, me semble entièrement justifier ces 3h30 ou 40, je ne sais plus.
Ouais. Et moi, c'est un peu la première partie du film qui m'a rappelé Winterslip, quoi. Non seulement pour le climat général qui font que les personnages bougent pas beaucoup, quoi. Enfin, forcément, ils sont plutôt terrés dans leur maison, ça bouge pas parce que dehors il fait froid, donc en fait on était très enfermés. Moi j'ai mis du temps à entrer un petit peu dans le film, il a fallu que petit à petit que ça se décroche. Et même quand le film, c'est les seules nuances que j'aurais un petit peu apportées, c'est-à-dire qu'il y a aussi un espèce d'épilogue en fait dans le film, je vais pas trop le décrire, mais où une voix off intervient et on a l'impression que le film va à un moment littéraliser ce qu'il a voulu dire, et en même temps, même là, je trouve qu'il y a quelque chose qui résiste, c'est-à-dire que c'est des mots très clairs, c'est une prose un petit peu fleurie, comme ça, avec plein de termes un petit peu vagues, un petit peu génériques a priori, et en fait, il y a quelque chose comme ça qui résiste à l'image un petit peu du personnage aussi, et même de la mise en scène de Chélan en général, c'est-à-dire que j'arrive un petit peu à la caractériser, en même temps, elle est assez souple et assez ouverte pour pas qu'elle soit verrouillée. C'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, dans ce film-là.
Mais pourquoi, au fond ? Parce qu'en fait, Moonju, je suis en train de faire un lapsus par rapport à l'idée que je voulais introduire, parce que Chélan est un vrai moderne, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une résistance du sens, c'est-à-dire on pourrait imaginer le même film réalisé quelque part par Moonju qu'on avait vu l'année dernière
RMN.
C'est-à-dire on aurait pu avoir le film sur la situation qui dégénère avec lui qui essaye de confronter
une rumeur aussi, voilà,
la rumeur qui circule, de confronter l'enfant, potentiellement d'autres scènes de confrontation avec des gens du village, que l'armée s'en mêle parce qu'il y a aussi un personnage de policier. Ça, par exemple, c'est très drôle au début du film. Ce personnage de professeur progressiste est invité par un de ses amis visiblement,
c'est le colonel, je crois,
qui est colonel. Il discute, il il essaie de le rencarder avec une fille. Et je ne vois pas à quel moment du plan, mais en fait, tout d'un coup, on découvre qu'ils ont des manettes de PlayStation
de PS4 dans, sa main,
dans ouais. leurs mains. Et il y a un décadrage qui montre qu'en fait, ils ont commencé à jouer à FIFA tout en discutant. Voilà, c'est exactement le genre d'idée que le film ménage, de décalage, de décadrage permanent. Et en même temps, qu'il y a une forme de résistance. C'est-à-dire, on ne comprend pas exactement quelle est la relation entre ces personnages. Il y a aussi une forme d'ellipse à partir du moment où il ne veut pas rencontrer cette femme, et finalement, oui. Donc, à la fois, c'est un film très ample, qui donne du temps à la durée. En même temps, il y a des trous dans la narration. Enfin, c'est extrêmement ludique, en fin de compte, d'essayer de naviguer à l'intérieur de ça. Et même si, comme toi, il y a une forme de résistance, et je ne suis pas sûr de tout comprendre, en tout cas, d'un point de vue de mise en scène, ça m'intrigue, ça m'excite un peu en permanence. Ça, et je trouve qu'il y a une émulation formelle de bout en bout.
Il y a une certaine liberté, en fait. Il s'autorise des choses que, dans un autre cadre, on ne se serait pas peut-être autorisé. Par exemple, voilà, l'exemple d'un peu type, c'est on a une scène en champ contre champ, une conversation, en fait, très longue. Et puis, d'un coup, au lieu de mettre une coupe entre les deux personnages qui parlent, il va faire un panoramique, un tilt, un panoramique très rapide qui, d'un coup, en fait, vient prendre en charge ce qui se joue là, qui serait beaucoup plus de l'ordre de la presque. Le personnage est acculé à ce moment-là, à la fois par le mouvement de caméra et par ce qu'il se dit. Et ça qui est intéressant, c'est que ça pourrait paraître, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un film très bavard. On pourrait dire ça passe par les mots, ça passe par les non-dits, justement, les circonvolutions orales qu'on peut apporter au lieu de dire la vérité, quoi, d'être direct. En même temps, c'est la mise en scène qui, elle, nous raconte quelque chose directement, en fait. Hein, c'est ça, il y a un jeu comme ça entre les deux.
Tout à fait. Sur ces idées de résistance, je vais donner un exemple parce que je trouve ça vraiment très fin. C'est quelque chose que j'aurais plutôt vu peut-être davantage dans une forme de série télé, c'est-à-dire une manière de disposer des pistes et de les laisser infuser et voir potentiellement de rebondir sur un élément a priori anodin, mais presque une heure ou deux heures plus tard. Par exemple, il y a une scène où des enfants défilent dans le local qu'a un peu élu le professeur comme bureau personnel, et en fait, ils viennent chercher des manteaux, des pulls, des bottes, etc. Et à un moment, il y a un personnage féminin qui rentre et il y a un espèce de recadrage qui relèverait presque du male gaze, c'est-à-dire on cadre sur les pieds de la jeune fille, lui pose quelques questions. Donc on se demande s'il n'y aurait pas une forme d'intérêt, puis il lui pose une question absolument, mais est-ce que ses chaussures seraient pas un peu petites. Et on a presque l'impression que là il essaie de remplacer le personnage de la favorite qui est un peu tombée en disgrâce parce qu'elle l'a dénoncé auprès du proviseur. Et au bout de deux heures plus tard, on revoit le même
au
personnage.
De pas grand-chose. Hein.
On voit le personnage passer avec sa petite sœur et il y a un recadrage sur les bottes et on se rend compte qu'en fait elle a peut-être menti sur sa taille pour avoir les bottes pour sa petite sœur et c'est le détail qu'avait remarqué le professeur. Et tout d'un coup ça remet en lumière totalement ce qu'on avait vu deux heures auparavant. C'est un exemple très précis de comment l'écriture et la mise en scène de Célan fonctionne et comment elle donne une espèce de complexité d'ensemble et aussi une part de résistance, encore une fois, de la signification.
Voilà, ça bouleverse la certitude du personnage, de nous. D'accord. Face au film, et c'est un petit peu ce que le film propose, c'est un peu notre sentiment aussi en sortant. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là si ça te va, Josué. Donc voilà, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo canoise.